Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans la post-communion de cette messe, nous demandons, accordez, nous vous en prions, Dieu Tout-Puissant, que ces mystères que nous célébrons par un office solennel, nous arrivions à les posséder par l'intelligence d'une âme purifiée. Saisir le mystère de cette fête par une intelligence purifiée, c'est ce qu'il nous faut essayer de faire. Et pour nous y aider, nous avons la collecte de la messe qui, en quelque sorte, nous donne la clé de cette intelligence surnaturelle du mystère de l'Épiphanie. Alors voici cette collecte. Dieu, qui avait révélé aujourd'hui votre Fils unique aux nations, en leur donnant pour guide une étoile, faites dans votre bonté que vous ayant déjà connu par la foi, nous arrivions à contempler l'éclat de votre gloire. Ainsi, vous le voyez, l'épiphanie est une révélation, une manifestation. C'est le sens du mot épiphanie. Et dans cette solennité, Dieu révèle, manifeste, fait connaître son Fils unique. Et cette révélation, nous venons de le lire dans la collecte, s'adresse aux nations, c'est-à-dire aux païens. Jusqu'à ce moment, en effet, Dieu s'était révélé au seul peuple juif, au peuple élu, par ses prophètes. La naissance de Jésus elle-même a d'abord été révélée aux bergers, et les bergers appartenaient au peuple juif. Mais comme seulement quelques-uns des juifs, quelques-uns des siens, comme dit saint Jean, les plus humbles, à l'image de ces bergers, accueilleraient le Verbe divin, tandis que la majorité ne le recevrait pas, l'enfant Dieu nouveau-né ne s'est montré qu'à quelques bergers de Bethléem. Et avec les rois mages, en revanche, ce sont les prémices des peuples païens qui reçoivent Jésus-Christ. Et comme ce sont surtout les païens qui allaient remplir l'Église, on peut dire qu'en ce jour de l'Épiphanie, Jésus-Christ prend son Église pour fiancée dans la personne des mages. L'élection des mages, venue de la gentilité, c'est-à-dire du paganisme, prépare la vocation des gentils, des païens, au christianisme et prépare leur conversion. Et c'est pourquoi cette solennité est proprement la fête de l'Église et des fidèles chrétiens venus à Dieu de tous les horizons. C'est ce que chante la prophétie d'Isaïe que nous venons de lire dans l'Épître. Je vous relis juste deux phrases de cet Épître qui montrent bien cela. « Les nations marcheront dans la lumière » et les rois dans la clarté de ton lever. Lève les regards, lève tes regards alentour et vois, ils se sont rassemblés tous, ils sont venus à toi. Tes fils viendront de loin et tes filles se lèveront de tous côtés. » Ces paroles s'adressent à l'Église, à Jérusalem, c'est-à-dire à l'Église. Alors qui étaient ces mages venus d'Orient, c'est-à-dire de Perse, ou d'Arabie heureuse, comme on disait, c'est-à-dire le sud de l'Arabie, le pays qui aujourd'hui s'appelle le Yémen. Ils n'étaient pas, comme pourrait l'insinuer leur nom, des magiciens ou des sorciers. Chez les Perses, les Chaldéens ou les Arabes, on appelait mages non pas ceux qui pratiquaient l'art de la magie, mais les sages ou les docteurs. Et les anciens commentateurs supposent qu'ils avaient eu connaissance de l'antique prophétie de Balaam, qui est rapporté dans le livre des Nombres. Balaam avait annoncé la naissance d'un mystérieux roi d'Israël et sans doute les mages avaient gravé le souvenir de cette prophétie dans leur mémoire. Voici ce que Balaam avait dit. « Je le vois. » Le, c'est le Messie. « Je le vois, mais il n'est pas encore. Je le contemple, bien qu'il soit encore loin. Une étoile brillera sur Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. » Une étoile. Alors quand parut cette étoile miraculeuse, les mages comprirent par une inspiration d'en haut qu'elle annonçait la naissance de ce roi attendu et ils partirent pour l'adorer. Cette étoile qui guidait les mages vers l'enfant Dieu, nous l'avons lu dans la collecte de la messe à l'instant, c'est la figure de la foi, c'est l'image de la foi par laquelle Dieu guide les fidèles de son Église en cette vie. Alors non plus jusqu'à la crèche de Bethléem, mais jusqu'au ciel, où ils contempleront non plus l'enfant enveloppé de l'ange, mais Jésus-Christ dans l'éclat de sa gloire. Saint Augustin a confirmé cette interprétation. Voici ce qu'il dit, ce qu'il écrit. « Abraham, dit Saint Augustin, reçut la promesse d'une postérité innombrable, qu'engendrerait non pas sa chair, mais la fécondité de sa foi. Cette postérité est comparée à la multitude des étoiles, afin de lui faire espérer une descendance céleste, c'est-à-dire les chrétiens. Et c'est pourquoi les gentils, que désignaient les étoiles, sont encouragés à venir à la foi par l'apparition d'un nouvel astre, de cette étoile miraculeuse. Et pour nous, en effet, quand on y réfléchit, la manifestation de Dieu dans nos âmes par la foi est tout à fait semblable au lever et à la rutilance d'une étoile. Et toute notre vie présente, guidée par la lumière de la foi, est comme une marche à l'étoile. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est précisément ce que symbolise le petit cierge que le prêtre donne au nouvel enfant de Dieu le jour de son baptême. Petite flamme fragile, mais qui est déjà le prélude à la lumière de gloire du ciel. Et cette petite flamme montre que le baptisé a quitté la région ténébreuse qui se nomme le péché originel, et que tout juste entré dans l'Église, il est désormais éclairé intérieurement. Il cherche Dieu. Il dit, comme les mages d'une certaine manière, « Où est le roi qui vient de naître dans mon âme ? Où est Jésus ?» Et de fait, cette lumière de la foi n'est jamais ici-bas qu'une lueur encore environnée de ténèbres, un petit point lumineux qui brille au milieu des ténèbres du monde, mais qui est suffisant pour dissiper les ombres de l'erreur et du péché et pour nous permettre de marcher résolument dans la bonne direction. Écoutons les mages. « Nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Ils n'ont point hésité. Pourtant, ils ne savaient pas au juste où leur marche les mènerait. En demandant où était le roi des Juifs qui vient de naître à Hérode, ils avaient tout lieu de craindre la violence de ce roi, si ombrageux et si jaloux de son pouvoir. Mais la foi qui les éclaire et le désir qui les anime les délivre de toute crainte. Ils cherchent Jésus et cela leur suffit. Nous avons vu et nous sommes venus. Pour eux, voir et venir, c'est tout un. Pas d'hésitation, pas de défiance, pas de mais. Quelle belle obéissance. Et c'est un beau modèle pour nous. Parfois, dans nos vies, comme ce fut le cas pour les mages, l'étoile disparaît. Quand les mages sont arrivés à Jérusalem et qu'ils ont consulté Hérode et les scribes, l'étoile avait disparu. Alors cela peut signifier que la lumière de la grâce s'efface et abandonne les bons lorsqu'ils consultent les méchants symbolisés par Hérode. Et c'est pourquoi il faut se séparer des méchants, il faut quitter la cour d'Hérode où règne l'hypocrisie et le mensonge. Mais cela peut signifier encore qu'il faut que la foi se purifie et s'affermisse par l'épreuve. Et c'est pourquoi Dieu souvent, parfois du moins, se cache pour un temps. L'étoile disparaît. Mais cela signifie aussi que la foi nous commande de passer par Jérusalem pour aller à Jésus, c'est-à-dire par l'Église, par sa doctrine, par ses écritures, par sa liturgie, par ses sacrements. Seule l'Église nous donne les moyens authentiques et ordinaires de trouver Jésus. En dehors de l'Église, la foi ne serait qu'une illusion. Alors, renseignés sur le lieu où devait naître le roi Messie, les mages reprirent leur route et l'étoile reparut à leurs yeux, les conduisant jusqu'à Bethléem. On a lu ça dans l'Évangile. Et le texte dit, entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Se prosternant, ils l'adorèrent. Ces mots nous disent combien la foi des mages fut grande. Était-il croyable, en effet, que ce petit enfant, emmailloté de simples langes, assisté d'une pauvre mère, logé dans un réduit obscur, sans serviteur pour l'entourer, sans aucune pompe ni aucun insigne de dignité, fût véritablement Dieu et roi? Et pourtant, les mages croient à sa divinité et à sa royauté, puisqu'ils lui rendent leurs adorations et leurs hommages et qu'ils lui ouvrent leurs trésors. C'est un bel exemple de foi. Nous pouvons dire des mages ce que Jésus a dit dans l'évangile de la Cananéenne ou du centurion de Capharnaüm. En vérité, je vous le dis, il ne s'est pas trouvé une si grande foi dans Israël. Saint Bernard a commenté par ces mots, à coup sûr, dit-il, celui qui les avait conduits les avait instruits lui-même, c'est-à-dire Dieu. Celui qui les avait avertis extérieurement au moyen d'une étoile les avait éclairés intérieurement de la vérité. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi tout cela ? Pourquoi fallait-il que les grandeurs de Jésus-Christ fussent ainsi cachées sous les marques de la petitesse et de l'indigence, et ne fussent connues que par la foi ? Saint Léon nous l'explique dans l'un de ses sermons sur l'Épiphanie. Saint Léon a laissé des sermons très beaux sur l'Épiphanie. Alors voici ce qu'il dit. « Ce n'est pas sans raison que les trois mages, conduits par une étoile miraculeuse pour adorer Jésus au berceau, ne jouissent pas du spectacle d'un Dieu commandant aux démons, ressuscitant les morts, rendant la vue aux aveugles, faisant marcher les boiteux et parler les muets, ou accomplissant quelque autre acte de la puissance souveraine. Non, ils ne voient qu'un enfant silencieux et paisible, entouré de soins maternels et qui ne montre en sa personne aucun signe de sa puissance, mais un grand miracle d'humilité. Et voici l'explication, c'est que toute la vie du Seigneur, qui a été un triomphe sur le démon et sur le monde, n'a été aussi qu'un acte continuel d'humilité depuis le commencement jusqu'à la fin. Tous ses jours ont été marqués par la douleur et la persécution. Dès son enfance, il souffre par le pressentiment de sa passion, et dans sa passion, il conserve la douceur de son enfance. Aussi, le grand art de la sagesse chrétienne ne consiste pas dans l'éloquence de la parole, dans la subtilité du raisonnement, dans la recherche de la louange et de la gloire, mais bien dans cette humilité véritable et volontaire que le Seigneur Jésus a pratiquée avec courage et qu'il nous a constamment enseignée depuis sa naissance jusqu'à sa mort ignominieuse sur la croix. C'est une grande leçon. Et si donc nous aussi, nous voulons suivre les traces de Jésus-Christ, nous devons employer les mêmes armes que lui, c'est-à-dire l'humilité, le renoncement et la croix. C'est là la voie de la vraie sagesse chrétienne, que la foi des mages a bien su reconnaître. Saint Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, « Celui qui veut être sage, qu'il commence par devenir fou. » Terminons le texte. « Puis, ouvrant leur trésor, les mages lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Le symbolisme de ces présents est bien connu. En lui offrant de l'or, les mages confessent la puissance royale de notre Seigneur, parce que l'or est le don royal par excellence. En lui offrant de l'encens, il confesse sa majesté divine, parce que dans les sacrifices, on brûle de l'encens en l'honneur de Dieu. Et en lui offrant de la myrrhe, il confesse son humanité mortelle et sa mission de sauveur et de victime propitiatoire, parce que la myrrhe est un parfum précieux qui sert à embaumer les corps. Ainsi, dit saint Augustin, on offre à cet enfant le tribut de l'or comme au roi souverain, le sacrifice de l'encens comme au Dieu véritable et l'aromate de la myrrhe comme à celui qui doit mourir un jour pour le genre humain. Alors à la suite des mages, nous devons offrir à notre tour à l'enfant Dieu l'or de notre charité qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout, l'encens de notre prière qui nous fait adorer Dieu comme notre Père et la myrrhe de notre contrition, de notre pénitence, par lesquels nous implorons le pardon de Dieu et le salut de nos âmes. Mais vous remarquerez que la secrète de la messe d'aujourd'hui, le texte que le prêtre va lire dans quelques instants, pousse la réflexion plus loin et précise que désormais l'Église, c'est-à-dire également nous-mêmes, ne se contente plus d'offrir à Dieu ces trois dons qui symbolisent les qualités de Jésus-Christ. Il est roi, il est Dieu et il est sauveur. Elle fait mieux. Désormais, l'Église offre Jésus-Christ lui-même. Voici le texte de cette secrète. « Regardez avec faveur, nous vous en prions, Seigneur, les dons de votre Église qui ne vous offre plus seulement l'or, l'encens et la myrrhe, mais celui qui est figuré par ses présents et qui est immolé et reçu en nourriture, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors là encore, faisons nous aussi de même. Ne nous contentons pas d'offrir à Dieu nos biens, nos âmes et tout nous-mêmes en hommage d'adoration et de reconnaissance. Offrons-lui son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et cela tout spécialement lorsque nous le recevons dans la Sainte Communion. C'est certainement le don qui est le plus agréable à Dieu le Père. Et puisque les mages ont offert leur présent à l'enfant Dieu par l'intermédiaire de la Vierge Marie, eh bien offrons à notre tour à Dieu le Père son Fils bien-aimé par les mains de la Vierge Marie qui nous l'a donné. Et puis enfin, leur ambassade terminée, les mages s'apprêtèrent à repartir. Mais Dieu les avertit en songe de ne point retourner vers Hérode et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, dit le texte de l'Évangile. C'est la dernière leçon que l'Évangile d'aujourd'hui donne à notre foi. Quand on a connu la vérité et Jésus-Christ, on ne doit point revenir à l'erreur et à ses vieux démons. On prend un autre chemin. C'est saint Augustin à nouveau qui l'explique. Puisque notre vie est changée, nous ne devons pas revenir par où nous sommes venus. Nous ne devons plus marcher dans nos anciennes voies, mais dans des voies nouvelles. Et saint Grégoire le Grand commande de la même manière, en revenant dans leur pays par un autre chemin, les mages nous donnent une grande leçon. En effet, notre patrie véritable, c'est le paradis. La connaissance de Jésus-Christ doit nous y faire rentrer, mais par un chemin différent de celui que nous avions suivi en le perdant. Et bien, c'est la grâce qu'il nous faut demander. Comme les mages, nous avons, depuis notre baptême, la joie d'avoir trouvé et connu l'enfant Dieu et sa mère. Alors marchons désormais par le chemin de la foi comme des fils de lumière. C'est donc la grâce que nous demanderons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.